aussi familièrement que possible, sans entrer dans, je dirais, des détails techniques de théologie. Je pense d'ailleurs qu'on peut aborder les questions de théologie d'une façon simple, ce que je vais m'efforcer de faire ce soir. Peut-être que si vous me poussez trop dans mes retranchements, je serai obligé de recourir à mes notes, de recourir à des citations de Barthes ou à des citations de Calvin. Alors sur la petite feuille que j'ai vue en entrant est inscrit Barthes et Calvin, filiation ou trahison. Je ne suis pas l'auteur de ce titre. D'ailleurs, on pourrait dire que Barthes est à la fois dans la filiation de Calvin et qu'il a cependant, sur un certain nombre de points, trahi Calvin. Mais ça, c'est une autre affaire. Je suis d'ailleurs assez ému de me trouver ce soir dans cette salle en rapport avec mon sujet, parce qu'il y a 50 ans, c'est-à-dire il y a un demi-siècle, étant étudiant à la faculté de Paris, nous avons eu, à un an près, hein, je ne dis pas 50 ans juste, je crois qu'en réalité il y a seulement 49 ans, nous avons eu la visite de Karl Barth. Karl Barth est venu donner dans cette salle même, qui était disposée autrement, il y avait une chaire sur une petite estrade, il y avait d'affreuses tables noires, toutes sculptées par des générations d'étudiants. Bon, mais enfin, dans cette salle, j'ai entendu Barth, et qui nous a fait une suite de cours, il est resté à peu près une semaine, il nous a donné une suite de cours sur la confession de foi de La Rochelle. Et tout à l'heure, d'ailleurs, j'aurai l'occasion de revenir sur la question des rapports entre Barthes et la confession de La Rochelle. Alors, je vais un peu vous dire des souvenirs précis, mais vous allez voir, ce ne sont pas des souvenirs tellement personnels, ce sont des souvenirs en rapport avec notre thème de ce soir. En 1931, un pasteur de Genève, Jean de Saussure, avait publié un petit ouvrage de 200 pages environ, intitulé « À l'école de Calvin ». J'étais tout jeune à l'époque, j'habitais Lyon, et ayant par hasard vu ce livre en librairie, je l'avais acheté, et ça m'avait conduit à lire Calvin. Je n'étais pas encore du tout étudiant en théologie, loin de là. Et cela m'a amené à la lecture de l'institution chrétienne de Calvin. Si bien que quand je suis arrivé à la faculté de théologie, en 1932, vous voyez que c'est pas d'hier, quand je suis arrivé en 1932 à la faculté de théologie, j'étais déjà nourri de la pensée de Calvin, ce qui n'était pas le fait d'un grand nombre d'étudiants, je m'empresse de le dire, mais je suis arrivé déjà formé, en quelque sorte, par la théologie réformée, au sens, si vous voulez, on pourrait parler aussi de la théologie calviniste. Et j'ai trouvé à Paris celui qu'on avait baptisé un temps le dernier des calvinistes, qui était Auguste Le Cerf. Et Auguste Le Cerf a publié, l'année même où je suis arrivé ici, le premier volume de son Introduction à la dogmatique réformée, et il devait publier, au moment où je finissais mes études, en 1936, le second volume de son Introduction à la dogmatique réformée. Et je dirais, je me suis trouvé en quelque sorte, tout naturellement, dans les eaux de Le Cerf, puisque j'étais, comme l'était Le Cerf lui-même, dans les eaux de Calvin. Alors, vous voyez que mon calvinisme n'est pas d'hier, je suis arrivé calviniste à la faculté de théologie de Paris, et au fond, je le suis resté. Mais dans ces années où je faisais mes études ici, apparut un petit fascicule qui était de Wissortoft, qui a été un secrétaire du Conseil œcuménique, et qui était une introduction à Karl Barth. Et j'avais lu cette introduction à Karl Barth de Wissortoft en me trouvant tout à fait à l'aise. Et lorsque apparu aussi pendant le temps où j'étais à la faculté, je ne me souviens plus de l'année exacte, c'était peut-être 1933, 1934, je ne me souviens plus, Parole de Dieu et Parole humaine. En 33, Parole de Dieu et Parole humaine, alors je me suis davantage lancé dans la lecture de Barth. Et nous avons même eu dans le séminaire ici une petite turne à partir de l'année 1934, où nous avons étudié ensemble la lettre aux Romains. Alors un étudiant devait nous donner sur tel verset les idées de Calvin, un autre les idées de Barth. On avait aussi un livre qui a été publié par deux anglicans, Hoskins et Deve, qui était un commentaire de l'Épître aux Romains. Et alors bien sûr, ceux qui connaissaient l'allemand avaient repéré déjà le Römerbrief de Barth, qui avait paru dans une première édition en 1919, à la fin de la Première Guerre mondiale, et puis dans une édition quand même pas mal changée déjà en 1921, une autre édition. Alors, pour les étudiants calvinistes de mon genre, la fréquentation de Barth nous semblait tout à fait aller avec notre calvinisme. Et le CERF, lui, considérait Barth, c'est comme ça qu'il le voyait, qu'il le nommait, il disait c'est un prophète, c'est un prophète. Et au fond, le CERF nous encourageait à lire Barth. Il lui semblait que la lecture de Barth, concurremment à celle d'auteurs, de théologiens réformés, pouvait être nourrissante et pour notre foi et pour notre théologie. Dans le même temps, alors je m'étais mis sous l'impulsion de Le Cerf, sur les conseils de Le Cerf, à lire un certain nombre de théologiens réformés, dont les noms ne vous diront peut-être pas grand-chose, mais enfin il y avait en particulier les livres au XIXe siècle d'un théologien calviniste écossais, William Cunningham, qui avait fait des études d'histoire de la dogmatique, et en même temps il avait fait tout un travail sur la théologie des réformateurs. Et puis alors il y avait aussi la dogmatique un peu plus scolastique peut-être de Berkhoff, de Louis Berkhoff, qu'il ne faut pas confondre avec un autre Berkhoff qui est un théologien hollandais. Alors voilà, on vivait comme ça, sans accroc. Ceux qui étaient calvinistes et ceux qui étaient martiniens se sentaient plus ou moins proches les uns des autres. Et puis, à partir de 1933, une petite équipe de jeunes hommes avait lancé une petite revue, Hic et Nunc, qui a eu une douzaine de numéros, et il y avait là des gens très différents. Il y avait Roland Bury, dont vous avez certainement entendu parler. Il y avait Albert-Marie Schmitt, qui était un spécialiste du XVIe siècle et qui a publié un certain nombre d'ouvrages, en particulier sur la poésie scientifique au XVIe siècle. Il était versé un petit peu aussi dans certaines vues ésotériques. Il y avait Henri Corbin. Henri Corbin, qui est, vous le savez sans doute, il est mort il y a peu de temps, et il était un des connaisseurs de l'islam les plus extraordinaires. Il est devenu de plus en plus un connaisseur de l'islam. Et Henri Corbin avait traduit, justement, dans ces années-là, un livre de Martin Heidegger, « Qu'est-ce que la métaphysique ?» Il avait traduit ce livre, et je me souviens, on avait lu ça, parce que c'était un peu la mode de Kierkegaard, c'était la mode aussi de Heidegger, alors on lisait un petit peu ces hommes-là. Il y avait donc Roland Bury, il y avait Albert-Marie Schmitt, il y avait Henri Corbin, il y avait Denis de Rougemont, qui est l'auteur d'un livre, L'Amour et l'Occident, qui a été réédité, je crois, il y a peu d'années. Et puis, il y avait Roger Gézéquel, qui, sous le pseudonyme de Roger Breuil, a publié deux romans, dont je vous recommande la lecture, l'un s'appelant Augusta, et l'autre La Galopine, mais Roger Gézéquel devait mourir assez jeune, il est mort, je crois, il avait 40 ans. Mais alors, cette revue, Ikeknok, a essayé de diffuser parmi, je dirais, les étudiants en théologie ou les amateurs de théologie, la pensée de Barthes. Je ne sais pas s'il y avait vraiment parmi eux un seul authentique barthien. Peut-être que le seul authentique barthien dans l'affaire, c'était Roland de Pury. Parce que les autres, Albert-Marie Schmitt était à certains égards plus calviniste que barthien, et Roger Gézéquel, Denis de Rougemont et Henri Corbin, je crois que ce qui les attirait vers Barthes, c'était la nouveauté de certaines expressions de pensée, et d'ailleurs Henri Corbin s'est éloigné considérablement de, on peut même dire de la foi chrétienne orthodoxe. Il a son dernier livre qui vient de paraître, je vous le signale, qui s'appelle L'homme et son ange, qui vient de paraître il y a peut-être deux mois, et c'est un livre assez extraordinaire. C'est aussi une forme d'ésotérisme curieux. Chaque homme ici-bas sur la terre a son ange dans le ciel, et au fond nous sommes, il y a l'homme et son ange, chacun de nous vit avec son ange et tout ça. Alors c'est assez extraordinaire. Mais alors il a été très influencé par le soufisme, il a été très influencé par la pensée de l'islam. Il est peut-être, il est sans doute, après Louis Massignon, le meilleur connaisseur français de l'islam. Et en tout cas, il a publié une quantité d'ouvrages, je ne sais pas, peut-être une quinzaine d'ouvrages, et de façon posthume, je crois qu'on va publier encore plusieurs œuvres de lui. Alors, donc, vous voyez, Ikeknok s'est lancé, on a parlé d'Ikeknok comme d'un brûlot qui était lancé dans l'arène théologique. Mais c'est sûr que je me souviens, pour nous étudiants à Paris, ces années-là, Ikeknok, c'était un peu notre drapeau, enfin, on aimait beaucoup lire Ikeknok. Et des choses, tout à coup, ont changé. Et on peut dater très exactement le changement, c'est en 1936. En 1936, c'est tenu à Genève un congrès qui avait été annoncé comme un congrès calviniste, Et un certain nombre d'étudiants de la faculté de Paris, un certain nombre de pasteurs, en particulier de l'Église réformée de France, s'étaient rendus à ce congrès à Genève, où il y avait toute une équipe calviniste, Jean de Saussure, Max Dominicé, qui a écrit un livre sur l'humanité de Jésus selon Calvin, aussi vers la même époque. Et avec, il y avait quelques Hollandais calvinistes, en particulier, et il y avait un homme qui n'était pas, il était docteur en théologie, mais il n'était pas professeur en théologie, qui s'appelait Orteus. Et puis il y avait des barthiens, et en particulier il y avait Pierre Maury, qui a été professeur de dogmatique ici après Auguste Le Cerf, et il y avait Roland de Pury, qui a donné des études bibliques, et puis il y avait Peter Barthes, le frère de Barthes, un frère de Barthes qui a beaucoup contribué à la publication de certaines œuvres de Calvin, et à ce congrès, tout à coup, s'est produit, on peut dire, une cassure entre les barthiens et les calvinistes. Je schématise un peu, mais tout à coup, on s'est rendu compte, et Le Cerf, à ce moment-là, tout à coup, s'est rendu compte que les barthiens et les calvinismes, c'était pas pareil. On peut dire que jusqu'en 1936, on pouvait penser qu'il y avait un courant théologique qui portait ensemble les Barthiens et les Calvinistes. Au fond, être Calviniste, c'était plus ou moins être Barthien si on était Calviniste de nos jours, et vice-versa. Bref, être Calviniste, être Barthien, tout cela allait ensemble, ou semblait aller ensemble. Là, il y a eu la cassure, ou plutôt, disons, la cassure devait exister, sans doute, mais on ne l'avait pas vue, et tout à coup, la cassure est apparue. Donc, 1936, apparition de la cassure. Le thème de ce congrès calviniste à Genève, c'était de l'élection. C'était un congrès calviniste sur l'élection. Vous savez que Calvin avait publié un ouvrage qui est intitulé « De l'élection éternelle de Dieu ». Et donc c'est sur la question de l'élection, tout à coup, qu'on a vu qu'il y avait des oppositions, et même il y a eu des oppositions telles que, après ce congrès, les calvinistes organisateurs de ces congrès internationaux calvinistes ont décidé de ne pas inclure le congrès de Genève dans la liste des congrès internationaux calvinistes, en disant non, au fond, les congrès d'avant étaient calvinistes. Il y aura après des congrès calvinistes, mais le congrès de Genève ne mérite pas le nom de calviniste, parce qu'en fait, il y avait un certain nombre de Barthiens qui étaient là et qui n'avaient pas du tout la position calviniste, justement, sur la question de l'élection, sur la question de la prédestination. Alors, sur la question de la prédestination, les choses sont allées en s'aggravant, peut-être, en s'aggravant au long des années. Je crois que c'est en 1957 que Pierre Maury a publié La prédestination. Il en avait déjà parlé au congrès de Genève. Mais alors, c'est après d'études présentées en cœur, donc 20 ans après, là, sur la prédestination, alors Barthes, ensuite, dans le volume de sa Kirchliche dogmatique où il parle de la prédestination, et déjà il l'avait fait dans sa préface au livre de Maury, parce que c'est Barthes qui avait écrit une préface au livre de Maury, Barthes louait Maury, au fond, d'avoir avec fraîcheur et audace, si je me souviens des termes, avec fraîcheur et audace, développé, au fond, une doctrine de la prédestination nouvelle par rapport à l'enseignement réformé, de la théologie réformée classique, et en opposition sur ce point avec la théologie de Calvin. Alors, je voudrais quand même pas être trop long, parce que je pense qu'il serait intéressant, c'est les questions que vous pouvez avoir, auxquelles je m'efforcerai de répondre. Enfin, je voudrais vous donner une liste, en quelque sorte, des points d'opposition qu'il y a entre, disons, le calvinisme ou la théologie réformée classique, d'une part, et puis Barthes, d'autre part. Je tiens à vous dire, pour pas qu'il y ait de malentendu, je ne vais pas développer ce soir tous les points très positifs sur lesquels un calviniste comme moi peut lire Barthes. Il y a dans la dogmatique de Barthes, il y a dans les autres ouvrages de Barthes, quantité en particulier de commentaires bibliques sur lesquels un calviniste peut être tout à fait d'accord avec Barthes. Alors, c'est pour ça que je crois qu'il y a quand même une filiation réelle entre Calvin et Barthes. Mais il y a des points d'opposition, et je pense que c'est peut-être plus intéressant pour des étudiants en théologie d'essayer de saisir, de comprendre, au fond, quels sont les points d'opposition. Alors, les points d'opposition, il y a d'abord la doctrine de l'Écriture. Ensuite, il y a la doctrine de la révélation générale. Et sur ce point, on peut dire aussi la question de la théologie naturelle. Il y a la question de l'élection, la question de la prédestination, dont j'ai déjà toucher un mot, il y a aussi la manière dont Barthes parle de la création et de la chute. Si vous voulez, les commentaires que Barthes donne sur les deux premiers chapitres de la Genèse et aussi ce qu'il dit dans un petit volume intitulé « Adam et Jésus-Christ ». Voilà. Alors, je donne là je conclurai simplement, je vais poser quelques jalons, et je conclurai en parlant un peu de la question des rapports entre théologie et philosophie. Alors, tout d'abord, sur la question de l'Écriture sainte. Si vous voulez, je vais schématiser, parce que je suis obligé d'être bref, vous comprenez, il faudrait des cours pour parler de chacun de ces points. Alors, je schématise. Si vous voulez, une des différences entre calvinisme et barthisme, c'est que pour le calviniste, l'Écriture sainte est la parole de Dieu. Elle est la parole de Dieu et toute la question de l'inspiration de l'Écriture sainte, pour nous, il y a un miracle de l'inspiration de l'Écriture sainte qui fait que les auteurs de l'Écriture sainte, avec leur don particulier, avec leur génie particulier, avec leur vocabulaire particulier, etc., ont vraiment donné en paroles humaines ce que Dieu voulait nous communiquer de sa vérité. Autrement dit, il y a objectivement une identification entre Écriture sainte et parole de Dieu, l'Écriture sainte et parole de Dieu. Tandis que pour Barthes, il a une conception, j'allais dire, beaucoup plus événementielle de la chose. Barthes dit que l'Écriture sainte est la parole de Dieu. Mais, en réalité, il n'y a pas là un datum, il n'y a pas là un donné objectif. Mais c'est dans un événement que l'Écriture deviendra parole de Dieu pour l'Église, pour ses lecteurs. Et ceci amène, de notre point de vue, calviniste, une certaine faille dans la théologie de Barthes. Nous pensons que la doctrine de l'Écriture dans la dogmatique de Barthes n'est pas une doctrine scripturaire. Autrement dit, de même que toutes les grandes doctrines chrétiennes doivent être fondées sur l'Écriture sainte, la doctrine de l'Écriture aussi doit être fondée sur l'Écriture sainte. Et d'ailleurs, curieusement, Barthes dit qu'il y a à la fois une identification de l'Écriture sainte et de la parole de Dieu, et qu'il y a cependant une distinction très nette de l'Écriture sainte et de la parole de Dieu. Et alors, ce qui est curieux, c'est que pour chaque fois qu'il parle de l'identité de l'Écriture et de la parole de Dieu, il cite effectivement un certain nombre de données scripturaires, mais alors quand il veut parler de cette différenciation, il ne cite plus de texte de l'Écriture, et je dirais, de notre point de vue, il n'insiste pas parce qu'il n'y en a pas. Et je pense, si vous voulez, que quand Jésus dit « avez-vous lu ?», il se réfère à l'Ancien Testament comme à la parole de Dieu. Quand il dit « il est écrit » ou « il est dit » pour le Nouveau Testament, qui se réfère évidemment à l'Ancien, puisque le Nouveau Testament n'est pas pour les auteurs du Nouveau Testament, il s'agit vraiment de la parole de Dieu. Alors ça, c'est tout à fait la pensée de Calvin qui, dans l'institution, va jusqu'à dire, ce que personnellement je crois d'ailleurs, que lorsque nous lisons l'Écriture, c'est exactement comme si nous écoutions la bouche même de Dieu nous parler. Quand nous lisons l'Écriture, c'est vraiment Dieu qui parle. Donc, vous voyez, je suis ultra schématique et je m'en rends bien compte. Mais disons, il y a, sur le point de la doctrine de l'écriture, une nette distinction à faire entre le point de vue de Calvin et le point de vue de Barthes. Et si nous passons à la question de la révélation générale, vous savez que Barthes est déjà, alors, vous voyez, je reviens au cours de Barthes que j'ai suivi dans cette salle même, Barthes commentant la Confession de La Rochelle en était venu à l'article 2 de la Confession de La Rochelle, et Barthes nous disait, c'est quand même malheureux, Calvin avait envoyé au synode réuni à Paris en 1559 un projet de confession de foi, et voilà que l'Église de France a cru devoir écarter la rédaction proposée par Calvin et a finalement codifié, il emploie le terme codifié, bah, codifié dans son article 2 la théologie naturelle et pour Barthes, la théologie naturelle, c'est quelque chose de catastrophique. Il y avait eu une brochure d'Émile Brunner dans ces mêmes années où j'étais à la faculté, intitulée Naturum Nad, et il y avait une brochure retentissante de Barthes pour répondre à Brunner. Donc, si vous voulez, il y avait une position très nette sur ce point de la théologie naturelle. Or, il faut bien voir que jamais l'article 2 de la Confession de La Rochelle, pas plus d'ailleurs que l'article 2 parallèle de la Confession belge de Guy de Bresse, n'affirme qu'il puisse y avoir une théologie naturelle. Absolument pas. Au fond, pour Barthes, révélation générale ou révélation universelle et théologie naturelle, c'est la même chose. Il identifie révélation générale et théologie naturelle. Or, quand on lit les confessions de foi, et quand on lit l'institution, parce que Calvin, là je crois contrairement à ce que dit Barthes, était tout à fait d'accord avec la confession de foi de La Rochelle, bon, il avait fait une proposition, les membres du synode n'avaient pas cru prendre la rédaction de Calvin, mais Calvin n'a jamais contesté l'article 2 de la Confession de La Rochelle, parce que dans l'Institution chrétienne, il dit la même chose. Il y a une révélation de Dieu dans l'œuvre de ses mains. Il y a une révélation de Dieu dans l'univers, dans la providence et dans le gouvernement du monde. Il y a une révélation de Dieu dans la constitution même de l'homme. Il y a une révélation de Dieu dans sa création. Et depuis la création du monde, la puissance éternelle de Dieu et sa divinité, ça c'est le texte de Romains, se voient comme à l'œil quand on les considère dans ses ouvrages. Et au fond, là, la confession de foi, et en tout cas l'institution chrétienne ajoute, en tout cas la confession belge et l'institution chrétienne ajoute, c'est ce qui rend tous les hommes inexcusables. Il y a une évidence de Dieu dans la création de Dieu, et cela rend les hommes inexcusables, parce que, ayant cette évidence de Dieu sous les yeux, devant leur considération, devant leur pensée, les hommes révoltés contre Dieu rejettent cette révélation de Dieu. Donc, dans la réalité de la révélation générale, il n'y a aucunement le fondement d'une théologie naturelle. Il y a, vis-à-vis de nous, simplement l'affirmation de notre culpabilité, du fait que nous sommes inexcusables, puisqu'ayant sous les yeux et devant nous l'évidence de Dieu, les hommes, nous, ne nous plongeons pas à cette évidence de Dieu qui éclate dans sa création. Ce que Barthes confond révélation générale ou révélation universelle et théologie naturelle, et en même temps, il y a une tendance dans la pensée de Barthes à réduire la révélation aux années de l'incarnation de Jésus-Christ, et c'est ce qu'on a appelé quelquefois le christomonisme de Barthes, oui, comme si le fait que Christ était l'unique sauveur, cela signifiait que les années de l'incarnation du Fils de Dieu étaient la seule révélation de Dieu. Or, du point de vue chrétien, nous disons, non, il y a eu une révélation universelle de Dieu depuis la création du monde. Et tous les hommes ont cette révélation de Dieu sous les yeux, et c'est ce qui les rend inexcusables, et c'est ce que disent les confessions de foi, et c'est ce que dit l'institution chrétienne de Calvin. Donc, nous pensons que Barthes confond révélation générale et théologie naturelle. Et alors là, c'est quand même aussi un point très important, parce que cela touche, nous le verrons en terminant, à toute la question des rapports entre théologie et philosophie. Ensuite, si nous passons à la question de l'élection, là, je vous rappelle enfin rapidement le schéma de Barthes. Le schéma de Barthes, c'est qu'au fond, Jésus-Christ est à la fois l'élu et le réprouvé. Et tous les hommes sont finalement élus en Jésus-Christ parce que le nom de Dieu sur le péché des hommes, le nom de Dieu, le nom de Dieu, pas le nom N-O-M, le nom N-O-N, le nom de Dieu sur le péché des hommes est tombé sur Jésus-Christ. Jésus-Christ est réprouvé à notre place, et donc cela conduit Barthes de plus en plus, au long de l'élaboration de sa Kirchliche dogmatique, à aller dans le sens de l'apocatastasis. Pas, il va dans le sens de l'apocatastase, parce que finalement, tous les hommes sont élus en Jésus-Christ. La seule différence qu'il y ait entre les croyants et ceux qui ne sont pas, c'est que les croyants le savent, tandis que les autres l'ignorent. Mais au fond, tous sont élus en Jésus-Christ. Et alors, là, nous touchons un point très important, c'est que pour Barthes, le kérigma, l'annonciation, la prédication de l'Église, c'est l'annonce de cette réalité objective que tous les hommes sont sauvés en Jésus-Christ. Bon. Tandis que pour les calvinistes, il y a bien sûr cette part d'information sur une situation donnée, à savoir sur la croix dans le kérigma, mais les hommes sont placés devant appel en même temps qu'il aurait fait de se repentir et de croire. Et donc, si vous voulez, il y a un aspect subjectif qui doit correspondre à l'aspect objectif de la rédemption. L'aspect objectif de la rédemption, c'est la croix de Jésus-Christ, mais cet aspect objectif fait appel à l'aspect subjectif de notre réponse. Et c'est là où, si vous voulez, à la suite de Luther, d'ailleurs, Calvin développe le salut par le moyen de la foi, le salut par grâce, par le moyen de la foi. Et alors, évidemment, il va découler de là une différence, c'est que, alors que pour Barthes, il y a une prédestination de tous les hommes au salut en Jésus-Christ, pour les calvinistes, il n'y a pas ce caractère universaliste du salut, parce que pour nous, il nous semble que l'enseignement de l'Écriture est bien qu'il y aura des réprouvés et qu'il n'y aura pas que tout le monde n'est pas élu. Alors donc, sur ce point aussi, il y a une distinction entre le point de vue calviniste et le point de vue barthien. Ensuite, j'ai dit, il y a des différences sur la question de la création et de la chute. Il y a des choses admirables dans le commentaire que fait Barthes des chapitres 1 et 2 de la Genèse, et les exégètes réformés calvinistes ont toujours reconnu et salué et essayé d'assumer ces éléments extrêmement solides et beaux qu'il y a dans les commentaires que Barthes fait de Genèse 1 et 2. Mais, en même temps, la pensée de Barthes, d'ailleurs, est quelque peu ambiguë, quelquefois équivoque sur ce point. On peut se demander, est-ce que pour Barthes, il y a eu une distinction, est-ce que pour Barthes il y a eu une distinction entre la création et la chute? Autrement dit, Barthes semble affirmer à plusieurs reprises qu'au fond, l'homme, dès sa création, a été pécheur. Que, en fait, on peut se demander, est-ce que pour Barthes, il y a eu la chute historique d'Adam? Et quand on lit son petit livre sur Adam et le Christ, on peut même se poser la question, est-ce que le parallélisme que fait Paul entre Adam et le Christ est vraiment respecté et sauvegardé dans l'exégèse que Barthes fait de Romains 5? Et là aussi, on a un petit peu l'inverse de ce que fait Barthes à propos de l'élection et de la prédestination. Au fond, on peut dire que dans la question de l'élection et de la prédestination, Barthes historicise ce que nous dit la Bible. Il ne voit, si vous voulez, que l'élection dans l'histoire, l'élection sans plus parler de prédestination, sans plus parler d'un conseil éternel de Dieu préexistant à toute l'histoire. Et c'est en ce sens, hein, je continue à schématiser, qu'on peut parler d'une certaine historisation quand Barthes parle de l'élection. Il rejette toute idée d'un decretum absolutum, il rejette ça, il n'y a plus que ce qui se passe dans l'histoire, et ce qui se passe en particulier en Jésus-Christ dans les années 1-30 de notre ère. Mais alors, à l'inverse, quand il parle de la création et de la chute, il semble éternaliser les choses. Dans la pensée réformée classique, dans la pensée calviniste, en réalité, l'éternité et le temps, l'éternité et l'histoire sont reçus ensemble. Par exemple, Dieu est immuable. Dieu ne se repent pas. La Bible nous le dit. Et cependant, la Bible nous dit que Dieu se repent aussi. Et alors, on peut dire, dans son conseil éternel, Dieu ne se repent pas, est immuable. Mais dans le temps, et pour nous, alors je pèche et Dieu est en colère contre moi. Je reviens à Dieu et Dieu m'ouvre les bras. Autrement dit, dans l'histoire, il y a cette repentance de Dieu. Et alors, le cerf faisait tout remarquer que tous les dogmes chrétiens sont articulés par des et tamen, und doch, and yet, et cependant, hein, et qu'il faut faire marcher ensemble ce que nous dit la Bible de l'immuabilité de Dieu dans son éternité, et de la vie de Dieu au long de notre histoire et des réactions de Dieu, et que l'un ne s'oppose pas à l'autre, mais qu'il nous faut prendre, et ce que la Bible nous dit de l'immuabilité de Dieu dans son conseil éternel, et de ce que la Bible nous dit de ses mouvements, j'allais dire, de Dieu au long de l'histoire de la création et des hommes. Et alors, curieusement, je le répète, enfin, je me place bien sûr du point de vue qui est le mien, du point de vue calviniste, il nous semble que, alors que sur la question de l'élection, Barthes historicise, en offusquant quelque peu l'éternité, quand il parle de la création et de la chute, il éternalise en offusquant quelque peu l'histoire. Et nous disons, nous essayons de dire, non, il faut maintenir ensemble les deux choses, parce que la Bible, la parole de Dieu, nous dit les deux choses. Alors, je voulais conclure par quelques mots sur théologie et philosophie. Alors là, c'est peut-être, en tout cas, à l'heure actuelle, un des points très importants des réflexions théologiques. Il y a deux philosophes qui ont, à mon sens, considérablement influencé Barthes. Le premier, c'est Kant, Emmanuel Kant. Et Le deuxième, c'est Heidegger, c'est Martin Heidegger. Pour Barthes, la philosophie, comme d'ailleurs pour la plupart des théologiens au long de l'histoire, pour dire c'est dommage, au fond, la philosophie est quelque chose d'autonome par rapport à Dieu, et en philosophie, c'est la raison qui doit régner. Et au fond, le présupposé, le dogme de l'autonomie de la raison humaine est présupposé par la plupart des théologiens. C'est pour ça d'ailleurs que la théologie chrétienne a toujours risqué, elle a été platonicienne, elle a été aristotélienne, elle a été cartésienne, elle a été kantienne, elle a été hegelienne, elle a été existentialiste, elle a été marxiste, elle a été tout ce qu'on veut. Au fond, les théologiens chrétiens se sont toujours référés à la philosophie comme à une discipline scientifique ayant son autonomie. Et alors selon les philosophes, selon les philosophes soit contemporains, soit pas forcément contemporains, Thomas d'Aquin n'est pas contemporain d'Aristote, et cependant c'est Aristote qui l'a fait entrer en théologie, Barthes n'est pas le contemporain de Kant, et cependant on peut trouver les traces de kantisme dans bien des affirmations de Barthes. Alors il faudrait là tout revoir, parler du nouménal et du phénoménal, parler de la distinction entre gauchiste et historie, etc. Mais, si vous voulez, il semble toujours que l'influence kantienne se soit exercée sur Barthes. Et alors, la question que posent les réformés actuels, j'entends les calvinistes d'aujourd'hui, de la fin du XXe siècle, c'est la question de est-ce que la référence à une philosophie qui serait prétendument autonome, est-ce qu'il faut continuer à donner là-dedans? Et alors c'est pour ça que, vous le savez, dans les milieux réformés, c'est développé dans le monde entier, aux Pays-Bas d'abord avec Dooyeweerd et Vollenhoven, en Afrique du Sud avec Stoker et Taliaab, aux États-Unis avec Cornelius Van Til et Boyce Rice, etc., s'est développée une philosophie qui rejette l'idée d'une autonomie quelconque de la raison. La raison humaine n'est jamais autonome, la raison humaine prend position pour ou contre Dieu, la raison humaine... pour vous expliquer un petit peu ce que je veux dire, vous savez que Jacques Maritain avait publié un livre intitulé « Trois réformateurs », les trois réformateurs étant Luther, Descartes et Rousseau. Et à un moment donné... Maritain s'en prend à Luther et cite, parce que dans un de ses Tischreden, dans un de ses propos de table, Luther avait traité la raison de putain. La réponse de la philosophie réformée à ça, c'est vrai que la raison humaine est une putain. Mais la putain peut entrer dans le royaume de Dieu en se convertissant. Et quand Paul dit qu'il faut que toute pensée soit amenée captive aux pieds de Jésus-Christ, il ne dit pas, Saint Paul, il n'a jamais dit qu'il fallait que la pensée théologique soit amenée captive aux pieds de Jésus-Christ. Remarquez, on aurait souvent besoin d'être amenée captive aux pieds de Jésus-Christ, c'est une autre question. Mais la philosophie en a tout autant besoin. Les sciences en ont tout autant besoin. Tout doit être amené captif aux pieds de Jésus-Christ, parce que Jésus-Christ est le roi des rois et le seigneur des seigneurs. C'est à lui que tout pouvoir a été donné. Et finalement, tout doit se ranger à la parole de Jésus-Christ, à l'autorité de Jésus-Christ. Et la seigneurie de Jésus-Christ doit s'exercer non seulement sur l'Église et la théologie, mais elle doit s'exercer sur tous les domaines de l'existence humaine. Et ça, alors, c'est un point aussi, c'est pour ça que je voulais terminer par là, c'est peut-être le point qui m'apparaît le plus grave, au point de vue de, enfin le plus net, au point de vue de l'opposition entre la pensée de Calvin et la pensée de Barthes. Finalement, la pensée de Barthes, finalement, est une pensée qui, à certains égards comme celle de Luther, a son domaine propre dans la théologie et dans l'Église. Tandis que, du point de vue calviniste, du point de vue réformé, c'est non seulement la théologie et l'Église qui doivent être atteints par l'autorité de la parole de Dieu, mais c'est l'homme tout entier dans tous les domaines de son existence. Et alors, par exemple, à un moment donné, Barthes écrit, c'est dans un petit volume justement où il parle de philosophie et théologie, il dit « Il n'y a jamais eu de philosophia christiana parce que quand elle était vraiment philosophia, elle n'était pas christiana, et quand elle était christiana, elle n'était plus philosophia. » C'est terrible de dire ça, parce qu'on peut le dire alors tout aussi bien de la théologie. Il y a de notre point de vue calviniste des théologies qui ne sont pas chrétiennes. Et pourquoi est-ce que la théologie seule pourrait être chrétienne ou ne pas l'être, peu importe, et la philosophie ? Pas du tout. En fait, bien sûr, la raison, mais enfin la raison, elle joue en théologie comme en philosophie, comme dans tous les domaines, le domaine scientifique, en toute science, la raison se met en œuvre. Seulement le tout, c'est de savoir si la raison est un instrument ou si elle est une source, si elle est normata, c'est-à-dire une norme normée, ou si elle est une norma normance, une norme qui veut normer. Et alors nous disons, nous pensons, nous, c'est le point de vue, si vous voulez, calviniste, l'autorité appartient à Dieu, à Jésus-Christ et à sa parole. Et toute pensée, dans quelque domaine que ce soit, comme toute activité humaine, quelle qu'elle soit, doit se repentir et être amenée captive aux pieds de Jésus-Christ. Et tout doit être rangé sous l'autorité du Christ. Mais alors, je dirais, la philosophie comme la théologie, les autorités de l'État comme celle de l'Église. Et au fond, d'une certaine manière, on peut parler de théocratie, à condition de ne pas confondre théocratie et ecclésiocratie. Parce qu'il ne s'agit pas du tout que l'Église, qui a son domaine propre, veuille régenter tous les domaines, comme ça s'est fait au Moyen-Âge. Si vous voulez, en gros, je schématise aussi affreusement, mais disons qu'au fond, il y a eu une sorte d'impérium de l'Église, de Constantin, mettons jusqu'à la Réforme, si on veut, et puis maintenant, nous sommes passés à l'impérium de l'État. Mais je dirais, ni l'Église, ni l'État n'ont été appelés par Dieu à régenter le monde. C'est Jésus-Christ qui doit régenter le monde. Et je dirais, dans chaque domaine, c'est à ceux qui sont responsables de se placer dans cette fidélité à la parole de Dieu. Alors là, je crois qu'il y a un point important. Comment se fait-il que Barthes et puis parler de la philosophie comme si la philosophie était une science, une connaissance autonome par rapport à Dieu et par rapport à sa parole. Et on peut se poser la question, est-ce que Barthes n'a pas trop eu une vision luthérienne sur ce point, dans la mesure, ça peut encore se discuter, dans la mesure où il semble que pour Luther, la réformation devait viser la théologie et l'Église. Tandis que pour Calvin, la réformation devait viser non seulement la théologie et l'Église, mais tous les champs des activités humaines. Et qu'au fond, la réformation doit être universelle. Et alors, nous arrivons à un moment de l'histoire où le conflit va probablement devenir plus aigu. Il va falloir choisir entre la révolution universelle et la réformation universelle. La révolution universelle étant, si vous voulez, l'apogée de l'humanisme et de la religion du salut de l'homme par l'homme, et la réformation étant, au fond, la volonté que gloire soit rendue à Dieu seul, et que ce ne soit pas l'humanisme, mais le christianisme qui soit reconnu.